Oui, mais bonsoir à tout le monde. Mais si ça vous dit, ce soir, j'aimerais vous amener sur les traces de l'ours des cavernes.
Belle bête.
Qui est vraiment quand même un animal mythique de la préhistoire. Voilà, comme je le fais depuis plus d'un demi-siècle, d'aller sur la trace de ces animaux. Je ne vous demanderai pas de venir avec moi passer cet endroit-là, parce que quand même, il y en a beaucoup qui seraient gênés. Mais c'est vrai que pour étudier l'ours des cavernes, il faut souvent aller dans les grottes. Et j'ai fait un rapide calcul il y a quelque temps. J'ai passé plus de 3 ans sous terre, en gros, pas qu'à la recherche de l'ours des cavernes, parce qu'il y a quand même aussi un peu autre chose dans la vie, même en paléontologie, je veux dire, hein. Mais malgré tout, alors, on m'a demandé de venir vous parler de ça, parce qu'on m'a dit, ouais, mais il faudrait dire qu'il y a eu des ours dans le Quercy. Mais en même temps, je me suis dit, il n'y a pas que le Quercy qui présente des ours et tout, que ce serait aussi l'occasion, et même pour moi d'ailleurs, d'un peu retracer finalement l'évolution d'une recherche sur l'ours des cavernes. Autrement dit, ce sera en même temps un peu chronologique. Mais voilà, il y a eu les premiers contacts avec les ours. C'est dans le Quercy, justement. Et bon, c'est pas tout à fait. Mais enfin bon, c'est dommage. Le premier grand chantier de fouilles dont je me suis occupé, c'est le gouffre de la Fâche. La Fâche avait un, en réalité, puisqu'il y en a plusieurs, en Corrèze. Alors, en Corrèze, on va dire, mais c'est pas le Quercy, c'est le Limousin. Mais géologiquement, c'est le Quercy, hein, c'est le Corse. Bien sûr, ce sera rapide tout ce que je vous dis, parce qu'un demi-siècle, ça ne se raconte pas facilement en une heure. Hein. Voilà, mais ce gouffre qui était complètement rempli lorsqu'il a été découvert, il a été découvert par le fond de la grotte. Les gens qui voulaient réaménager un peu mieux le gouffre de la Fâche se sont dit, ben là, au fond de cette galerie, là, il y a de la castide. On va prendre la castide pour en tirer un peu. Voilà. Et ils ont trouvé des ossements, et notamment des dents d'ours, des dents, pardon, de mammouths, c'est ça qui les a surpris au début. Et le musée de Lyon et l'université de Lyon ont été alertés de cette découverte. Et on est allé fouiller depuis la surface, après report topographique. Et on a fouillé comme ça, donc de 64 à 68, mais des chantiers qui duraient à l'époque 3 mois et demi. Hein, jusqu'à 14 mètres de profondeur, avec des couches successives. Il y avait de tout. Beaucoup d'oiseaux, de la microfaune, du mammouth, du rhinocéros, des chevaux, des cerfs, des mégasaurus. En gros, toutes les bêtes de la création qui vivaient à cette époque sur le corse de Martel ont été retrouvées à la Fâche. Mais puisqu'il s'agit des ours, eh bien voilà, on a quand même trouvé quelques vestiges osseux d'ours. Bon, ça c'est une calotte crânienne, ça ce sont 2 métapodes, ça c'est un cubitus, bien sûr, ça c'est un bout de mâchoire, une dent, un astragale. Bon, mais c'est à peu près tout ce qu'on a trouvé comme ours parmi les centaines de milliers d'ossements qui ont été sortis de cette grotte. Mais c'était quand même un premier contact avec les ours. Mais quand on étudie cet ours, on se rend compte que ce n'est pas vraiment l'ours des cavernes. Il est beaucoup plus vieux et remonte à environ 250 000 ans. À cette époque-là, l'ours des cavernes, on le verra mieux tout à l'heure, n'existait pas encore. Mais c'est son ancêtre direct. Ce n'est pas la dernière glaciation dans le Quaternaire, mais l'avant-dernière glaciation, le Riche. Voilà, c'était un premier contact, mais on allait finir les fouilles de la Fâche en 68 lorsque, juste à côté, dans la carrière de Joran, en exploitant une carrière, là, le carrier a trouvé une grotte, et là aussi il y avait des tas d'ossements. Et par curiosité, j'ai été prévenu par quelqu'un du coin, M. Picard, qui est mort maintenant, il me dit, ah, il faut venir, donc je suis venu voir, un 15 août. Et effectivement, dans cette grotte, il y avait de nombreux vestiges osseux, à tel point qu'on s'est dit, puisque la fouille de la Fâche Maintenant, on connaît le remplissage, on a beaucoup de matériel, on va pouvoir faire des études qui ont duré encore des années avant publication. Mais on va donc fouiller cette grotte de Joran, qui est une toute petite grotte, là elle fait encore beaucoup plus petite que la grotte aux ours de Souillac dont on vient de parler, qui faisait une cinquantaine de mètres de longueur. C'est une vieille photo en diapo qui a été transformée, ce qui fait que ce n'est pas génial, enfin c'est pour raconter en même temps l'histoire dans une chronologie. Alors c'est certain qu'il y avait de l'ours, mais il y a aussi du lion des cavernes, et j'ai mis cette diapo puisque justement pour faire voir quand même globalement la différence entre ces deux grands prédateurs. Voilà la mandibule, deux mandibules différentes d'ailleurs, qui ont été trouvées dans cette grotte, qui est datée aux alentours de 33 000 ans. C'est donc là, par contre, tout à fait le Wurm, c'est l'époque du paléolithique supérieur. Et on se dit, normalement, à cette époque-là, il y a de lourdes cavernes, c'est de lourdes cavernes. Mais en regardant de plus près, je ne sais pas si... Voilà, vous voyez qu'ici, il y a un petit trou, là. Bon, il manque la dent, mais apparemment, c'est l'alvéole d'une dent. Et sur l'autre mandibule, on se rend compte que là aussi, il y en a une, et là aussi. Et à part ça, il y a les dents normales, comme on les voit sur le crâne qui a été exposé ici, et que je me suis empressé de venir voir, je ne le connaissais pas, et j'ai pu confirmer à Michel, là, encore un autre Michel, que c'était bien de l'ours des cavernes. Mais là, à cause de ces alvéoles, eh bien, on a dit, finalement, ce n'est pas de l'ours des cavernes, bien qu'il a vécu en même temps que l'ours des cavernes, c'est de l'ours brun, Ursus arctos, qui est l'ours brun qui continue à vivre actuellement, même s'il est vraiment menacé, notamment dans les Pyrénées, où vous savez, il n'y a plus la race pyrénéenne, elle a été remplacée par des introductions d'ours slovènes, dont je suis parrain de la première réintroduction. Si, non, c'est sérieux. Voilà. Et puis, le temps passe. En 84, en 83, on me prévient que dans le gouffre de Padirac, il y a aussi des os qui ont été trouvés. Et on me dit, ben Michel Durand, on me dit, ah, mais il faut que tu viennes, encore un autre Michel. Il faut que tu viennes parce qu'on a trouvé ça. Oh, je dis, pourquoi pas, hein. En réalité, c'est pas tout à fait Padirac. C'est quand même plutôt l'autre Padirac. Parce que ce n'est pas sur la commune de Padirac. Le gisement se trouve loin dans la rivière souterraine et il est sous le territoire de la commune de Mers. Voilà. Donc c'est pas tout à fait Padirac, c'est l'autre Padirac. Et oui, seulement voilà, il ne m'avait pas dit que pour aller sur le gisement, ben, il fallait prendre le bateau, il fallait naviguer, il fallait... On ne sait pas que c'est difficile et tout, mais... Comme on partait en théorie pour plusieurs jours, ben, il fallait apporter tout un tas de choses, des équipements individuels, des canaux, tout un tas de sacs. Voilà en gros l'équipement d'un spéléo. Ce qui fait que pour faire ces 9 km de galeries souterraines avant d'arriver sur le gisement, il nous a fallu chaque fois 2 jours et demi. Avec bien sûr 2 bivouacs à cordon. 10 jours sous terre sans ressortir. Les 3 fois où j'y suis allé, en 84, 85 et 89. Quand on arrive sur le gisement, il y a une petite rivière, c'est un affluent, c'est pas la rivière de Padirac, c'est l'affluent Robert de Joly. Il y a une petite rivière qui coule, on sait très bien d'où elle vient, hein, c'est de la Perte de Goubert, et il y a des restants, il y a des accumulations de sédiments qui ont été épargnées par l'érosion. Et de temps en temps, on se rend compte, là, sur ces berges, qu'il y a bon, une petite défense d'éléphant, qu'il y a des ossements. Ouais. Et même dans ces remplissages, on voit en place qu'il y a des os. Il y en a un ici, il y en a un là. On est même arrivé à faire, malgré les difficultés du cheminement et en prévision du retour, etc., de rafraîchir une coupe plus ou moins naturelle à un endroit qui fait 4 mètres de hauteur sur 7-8 mètres de long pour faire une coupe stratigraphique comme on fait normalement dans un chantier de fouille de type archéologique ou paléontologique. Et pour faire des études de sédiments, on n'a pas fait les pollens, parce que comme c'est une rivière active, il y a des pollens récents qui sont rapportés sans arrêt. Et bien là aussi, dans la rivière souterraine de Pagnac, à 9 km sous terre, eh bien, on a eu un crâne d'ours qui a été trouvé, entre autres. Voilà, vu sous le nom. Eh, il a qu'une dent, celui-là, il est en meilleur état. Voilà, mais il y a aussi quelques autres ossements. Dans les... Alors, oui, c'est tout noirci parce que comme ça a été apporté par la rivière, et dans la rivière, il y a pas mal d'eau. On parle que souvent c'est pollué les rivières et tout. Mais là aussi, c'est pas forcément parce qu'il y a du manganèse. C'est essentiellement du dépôt de matière organique. Voilà. Comme quoi, c'est pas nouveau. Voilà. Mais ce sont deux humérus d'animaux adultes, puisque là, vous voyez, c'est épiphysé des deux côtés. Alors que quand c'est juvénile, il y a la diaphyse et puis les deux extrémités des os qui sont dessoudées de la diaphyse. Là, c'est bien soudé, donc ce sont deux animaux adultes, même si celui-ci est incomplet. Et en plus, on se rend compte que celui-ci est de bien plus grande taille. Voilà, encore le même plus sonore et celui qui est vraiment plus grand. Et du coup, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais là, on a bien décidé que ça, c'était un humérus d'ours des cavernes, Ursus Pedeus, mais que ces deux-là, qui sont beaucoup plus petits, c'était sans doute un autre ours. Alors, est-ce que c'était de l'ours brun, Ursus Arctos, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt, mais ça n'a pas été... On n'a pas assez de matériel pour le prouver, mais on pense que c'est plutôt de l'ours du Tibet, l'ours à colline, Ursus Tibetanus. Donc, déjà, je ne sais pas si ça vous chagrine pas un peu tout ça, mais on a de l'Ursus Deningeri, de l'Ursus Arctos, de l'Ursus Pedeus et peut-être aussi de l'Ursus Tibetanus. Sur le cos de Martel, c'est grave. Alors, en mangeant, là, le serveur me dit, il y a eu des ours ici dans la région. Voilà. Mais, bon, ça va beaucoup se redire avec ce que vient de nous présenter Jean-Louis, mais tout ça pour dire qu'il y a aussi bien d'autres grottes à ours dans le café. On ne les passera pas en revue parce que ce n'est pas le but, je pense, de la soirée. Voilà. Mais voilà ce fameux fémur qui a été cassé accidentellement lors des premières visites. Hein. Voilà. Donc il y a quelques os d'ours. Bon. Et bon, on en a vu. Hein. Ce sont les mêmes photos, excusez-nous, mais de notre côté, chaque heure, on a préparé nos interventions. On savait bien qu'on allait un peu se redire sur ces points-là. Mais ce n'est pas bien grave. Mais voilà exactement la même photo, hein, avec ces griffades également. Donc des os, des poches, des griffades, ce poli, hein, qui est quand même pas mal, hein, le frottement des ours répétés au même endroit, parce que les spéléos, quand ils vont sous terre, quand même, ils ont un peu un éclairage en général. Hein. Mais les ours, eux, ils sont derrière. Hein. Donc le mieux, c'était de se déplacer en longeant les parois, et du coup, à force de passer toujours à la même hauteur, à 80 cm par rapport au sol, à peu près, qui est la partie la plus développée de la cage thoracique, et bien, ils finissaient par vomir les parois. On en verra d'autres tout à l'heure, je pense. Bien sûr, avec des très belles empreintes de pattes d'ours, ce qui est beaucoup plus rare. Un des griffades, des moches, il y en a aussi pas mal. Et les griffades, c'est beaucoup plus rare. Bon, ça a été dit qu'effectivement, ça avait été balisé pour éviter de marcher sur les os, pour éviter d'endommager les borges et surtout les empreintes qui sont beaucoup plus rares. Et il suffit d'y mettre une fois le pied dessus et ça n'existe plus. Voilà. Et effectivement, si j'ai mis ça aussi, c'est la même photo que tout à l'heure, tant pis, mais c'est parce que il y a projet. En réalité, dans le projet, il y a marqué que c'est Fred Maxud et que bon, mais non, moi je suis trop vieux, j'ai décidé de ne pas étudier la grotte aux ours de Souillac, il faut laisser la place aux jeunes. Parce qu'il faut, il faudra encore au moins 2 ou 3 ans, si on veut fouiller, pour avoir l'autorisation du propriétaire et puis du ministère de la Culture par l'intermédiaire du service régional de l'archéologie. Et puis après, il faut se constituer une équipe, et puis après, il faut fouiller, et puis après, il faut étudier tout ça. Oh, et on a les cheveux blancs. Voilà, et pour continuer un peu cette histoire en même temps, ben, toujours dans le Quercy, Ben voilà, il va y avoir plusieurs photos comme ça de tiroirs d'ossements. C'est que d'ours, hein. C'est que des ordures, d'ours, hein. Bon, là, il y a des. Des pubitus. Je ne vois même pas ce que c'est. Radius, enfin bon. Voilà, des vertèbres. Mais tout n'est pas. Ben voilà, la première vertèbre, celle qui soutient la tête. Voilà, des humérus. Voilà, encore d'autres ossements, des fémurs. Hein. Bon, ça fait quelques photos. J'ai pas pris tout en photo. Il y en a une vingtaine de tiroirs. Et des crânes, des morceaux de crâne. Bon, j'avais pas d'éléments suffisants, mais puisque, paraît-il, ce crâne et cette mandibule viennent du même gisement, maintenant je peux dire que c'est vraiment de l'eau des cavernes. Et non pas de l'eau, hein. Ce qui est quand même important de savoir, puisqu'il y a les deux qui ont vécu en même temps dans la région. Voilà, c'est bien le nom des cavernes, puisque vous voyez que là, il n'y a pas l'alvéole de la troisième prémolaire et ni l'alvéole de la première prémolaire. C'est bien un nom des cavernes, Ursus Pelleus, lui-même. Voilà, mais ça, c'était les débuts, les premiers contacts avec l'ours des cavernes. Mais dans ma vie, j'ai eu deux grands chocs avec les ours des cavernes. Le premier, c'est en Chartreuse, à la Balmacolon. Voilà l'ouverture de la grotte, à 1700 mètres d'altitude, 600 mètres de dénivelé depuis le dernier parking où on peut mettre la voiture, 110 mètres de replat, 600 mètres de montée, un peu plus, un peu moins, mais ça monte. Voilà. Et donc, là, j'ai fouillé ce gisement avec autorisation, tout à fait, et tout ça, hein, du ministère de la Culture, du service régional de la Culture, pendant 6 ans, de 1989 à 1994 inclus. Voilà, l'entrée qu'on a vue tout à l'heure sur la photo est là. Bon, cette galerie était toujours connue. Et puis, en 1988, ben, des spéléos, là, ont désobstrué un endroit où il y avait un petit commandaire, et toute la partie grisée, ici, qu'ils ont trouvé, renferme des ossements d'ours. Ça fait quand même à peu près en tout 300 mètres de longueur, sur en moyenne pas loin de 10 mètres de large. Et on verra qu'il y a eu des ossements d'ours sur à peu près 40 cm à 50 cm de profondeur. Ce qui fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis à partir de là, d'autres galeries ont été trouvées et tout. Maintenant, le réseau est connu sur plus de 3,5 km. Alors bien sûr, il faut quand même monter à la grotte déjà, si ça fait de niveler. Puis après, il faut passer la trémie qui a été débouchée par les spéléos et qui a été un peu stabilisée malgré tout. Dans la grotte, au gros de l'été, il faisait 1,5 degré. C'est à 1700 mètres d'altitude. C'est une parenthèse. Voilà. Et pour installer un grand chantier de fouilles, où vous voyez tous les os qui sont là, qui sont prêts à être repérés, prélevés dans les conditions, dans les règles de l'art. Malgré, vous voyez, la boue qu'il y a, malgré le froid, je l'ai dit, mais la boue aussi, l'humidité, 98 à 99% d'humidité, mètre carré par mètre carré, tous les os ont été repérés et on pourrait maintenant les remettre en place à 1 ou 2 cm près, si on voulait, si on avait besoin. On ne le fera pas. Voilà, alors on a trouvé des tas d'os, mais ça paraît curieux tout ça. Et ça, on s'en était rendu compte dès la fouille. En regardant de plus près, on se rend compte qu'effectivement, là, il y a un creux, un enfoncement, et qu'il y a les débris osseux qui sont encore en place. Et le même os, si on le retourne, c'est un fémur ça, hein, si on le retourne, eh bien, symétriquement, il y a aussi cet enfoncement. Quand on a vu ça, on s'est dit, pas possible, c'est une grosse bestiole qui, avec ses crocs, a pris l'os des deux côtés et a enfoncé. Et oui, mais on ne savait pas ces choses-là avant la Balmacolon. C'est pas, ça fait partie de choc, d'une vie, ça. Hein. Quand on découvre des choses aussi ridicules que ça, mais pour nous, je ne sais pas si vous imaginez tout ce que ça peut faire. Sur d'autres os, vous voyez, on voit les traces de dents de crocs qui ont ripé sur l'os. On se sent donc vraiment des charognards qui ont fait ça, pas de problème. Or, dans cette grotte, comme charognard, il n'y a que de l'ours. Il y a un loup qui a été trouvé dans une fissure, mais qui n'est pas forcément en liaison directe avec le gisement. Mais enfin, même s'il y a eu, si ça avait été fait par des ours, parce que presque tous les ours sont charognés, il n'y en a plus de la moitié. On aurait trouvé un peu plus qu'un squelette de loup, hein, alors qu'on a trouvé en tout des restes de plusieurs milliers d'ours. Plusieurs milliers d'ours. Pas d'ours, d'individus. Voilà, alors bien sûr, là, la photo, c'est pareil, elle n'est pas bonne. Parce que... Mais on a fait du coup des tranchées de reconnaissance stratigraphique, et on se rend compte que, vous voyez, en surface, il y a beaucoup d'ossements et tout. Et il y avait des ossements sur toute la terre qui est un peu rougeâtre, là, c'est-à-dire sur, à cet endroit-là, 80 cm d'épaisseur. 80 cm d'épaisseur. Bien sûr, on se dit, ça n'a pas pu se faire en un jour, ça. Hein, il ne faut pas exagérer. On a essayé de faire des datations. C'était en 1985, je crois, ou 86. Non, 94, pardon. 95. Mais les datations, ça ne marche pas toujours. Vous savez, le carbone 14, tout le monde parle du carbone. C'est le problème. Non, c'est pas si facile que ça et c'est pas toujours évident d'avoir des datations. Donc on était déçus, mais tant pis. Mais par contre, on a profité de cette coupe pour bien sûr la dessiner, repérer les os et tout, et faire des prélèvements pour voir les pollens qu'il y avait dans chacun de ces niveaux, et du coup pour essayer de faire un peu un aperçu de la végétation aux différentes époques où les ours venaient dans la grotte. On a quand même fait un deuxième sondage, parce qu'on est, on est un peu têtu des fois, nous les paléontologues. On a fait un deuxième sondage, pareil, il y avait des os sur à peu près 60 cm de profondeur. Mais là, on avait fait un prélèvement ici, au, pratiquement en surface, c'était juste recouvert par l'argile, et on avait appris que le laboratoire d'Oxford, en Angleterre, avait mis au point un système de datation qui est l'AMS, avec accélérateur de particules, et qui permettait, avec moins de quantité d'os, avec quelques grammes seulement, et non pas avec plusieurs centaines de grammes, et qu'on pouvait dater quand il y avait encore un peu de collagène, bien sûr, hein, et qu'en plus, on pouvait dater des périodes un peu plus anciennes. Et on nous a dit que ça datait, je n'arrive pas à lire, là, mais dans les 24 000, hein, ça, 24 100, quelque chose comme ça. Par rapport au présent, BP, BP, Before Present. Le présent est en 1950. Non, c'est un détail. Voilà. Ah, puis, pardon, je reviens. Du coup, on a continué le sondage et tout à fait en bas, on a prélevé un autre os. Voilà, la couche fossilifère, elle s'arrête là. C'est que ça qui est fossilifère. Et là, au même laboratoire, on a envoyé des échantillons et quelques temps après, il m'envoie un courrier en disant ben voilà, et ça donne 45 000, supérieur à 45 000. Oui, parce qu'après 45 000, c'est trop vieux. Le compteur GGR ne peut pas compter exactement combien il reste de carbone 14. Hein. Mais c'est supérieur à... Mais vous vous rendez compte, supérieur à 45 000 et 24 000, ça fait, la différence, ça fait 21 milliards. Ça veut dire que cette grotte a été occupée par les ours pendant au moins 21 000 ans. Et nous, à l'école, on nous casse les pieds avec l'histoire de France, qu'on fait comme ça avec un Vercingétorix qui s'est fait taper sur la figure par le plus de dames. Non, mais. 2000 ans. Pourtant, il s'est passé des choses en 2000 ans. Alors imaginez à 21 000 ans. Ce qui explique très certainement la grande quantité d'ossements d'ours des cavernes quand la grotte a été occupée par les ours. Parce que, pas forcément toutes les années, mais assez régulièrement, ils retournaient dans les mêmes cavités. Ils n'allaient pas là-bas pour mourir, ils allaient là-bas pour hiverner, pour passer l'hiver, parce que dehors, maintenant, il fait 1 degré 5 dans la grotte. Et c'était à la période glaciaire. Donc, même au cours de l'été, ils devaient faire peut-être -1, -2 à cette altitude-là, à l'extérieur. Et l'hiver, eh ben, ils devaient faire des -15, -20. Et vous savez que les ours sont des animaux, les ours actuels, sont des animaux qui hivernent. Voilà, et l'ours des cavernes avait cette faculté d'hiverner. Et de temps en temps, comme il y restait 4 mois, 5 mois dans la grotte, eh bien, il y en a un qui mourait. Ils n'allaient pas pour mourir, mais il y en avait un qui mourait de temps en temps. Et comme les grottes sont des milieux particulièrement favorables pour la fossilisation, parce qu'il y a toujours la même température, c'est toujours le même air, et il n'y a pratiquement pas de microbes. C'est très sain, les grottes. Hein? On n'est jamais malade quand on va dans les grottes. Des fois, on a des accidents, mais voilà. Donc, tout ça, ça commence à mûrir, on commence à apprendre des tas de choses sur l'ours des cavernes en particulier. À tel point que la grotte, elle est là. Hein? Elle est là. Et au village, 1100 mètres plus bas, eh bien, on a fait un musée de l'ours des cavernes. Le seul musée de l'ours des cavernes qui existe actuellement. Et les hommes, ils sont en train d'imaginer de mettre aussi des, des machines à coudre du siècle dernier. Ce serait intéressant, mais dans un autre musée. Pas dans un musée de l'ours des cavernes, quoi, quand même. Ah, mais bon. Voilà. Non, c'est vrai, il faut voir les choses comme elles le sont. Voilà, ce musée où on a, ben on a le squelette de l'ours que vous avez vu tout à l'heure en présentation et qui attire pas mal de gens et qui apprend beaucoup de choses finalement sur l'ours des cavernes. Pas seulement sur ce qui a été trouvé à la base de la colonne, encore que bien sûr on s'en sert beaucoup, y compris tout le matériel osseux qui est présenté, mais qui replace aussi l'ours des cavernes parmi les ursinés actuels et fossiles. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait là-bas déjà des tas de réunions importantes. Il y a quand même un autre grand choc dans une vie, quoi. C'est quand on m'a demandé si je voulais bien essayer de continuer le travail qu'avait commencé Philippe Morel, le paléontologue suisse qui était chargé d'étudier les ossements qu'il y a sur le sol de la grotte Chauvet et qui malheureusement est mort juste après la deuxième campagne de prospection. J'ai pas osé refuser. Voilà, parce que quand même, quand on est dans la grotte Chauvet, presque toutes les photos que vous allez voir maintenant, c'est sur la grotte Chauvet, à quelques exceptions près. Voilà, il y a quand même des ossements. Tout à l'heure, on mangeait avec quelqu'un qui disait « Ah, j'ai jamais vu d'os dans une grotte !» Bon, voilà. Il y a des endroits, ce sont des véritables accumulations, un crâne, deux crânes, bon, tous les autres de deux, trois individus. Et ça, il y en a sur 400 mètres de longueur. Ça varie de 10 mètres de large à 50 mètres pour certaines salles. En fait. Mais par contre, on n'a pas pu faire de sondage pour savoir jusqu'à quelle profondeur il y en avait. Et tout. Heureusement qu'il y a un sondage naturel par effondrement dans la salinaire, puisqu'il y en a qui ont vu la salle, je crois qu'il y a vu la grotte. Ah, il y a des privilégiés des fois. Hein. Et où on voit que sur les 2 mètres qui ont été nettoyés par ce vidage naturel, par ce sous-tirage, il y a des restes osseux sur à peu près 50 cm d'épaisseur, mais pas aussi serrés que ce qu'il y a à la Balmacolon. Voilà, donc à la limite, il y a moins de vestiges osseux qu'à la Balmacolon. Mais seulement, voilà, il n'y a pas que les os, il y a aussi les boches, vous en avez vu sur les photos précédentes, sur la présentation de Souillac, mais là, on voit des boches, c'est complètement labouré. Et l'un des intérêts de la grotte Chauvet, c'est que depuis la découverte, ça n'a pas tellement été abîmé. Ah bien sûr, on est passé. Mais on passe toujours au même endroit. Dès le début, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel, qui sont les inventeurs, ont installé un petit passage sur des plastiques. Et nous, on a refait les passerelles métalliques sur le même endroit pour dire d'éviter au maximum d'abîmer les sols. Parce qu'il n'y a pas que les peintures rupestres à Chauvet, il y a aussi le monde des cavernes. Hein. Regardez ça. Là, ce n'est pas des greffades dans l'argile, hein. C'est des greffades sur des concrétions. C'est du rocher, hein. c'est de la stalagmite. Et le poulie des ours. Mais ça, c'est profond dans les galeries. Hein. Parce qu'ils sont allés partout où ils pouvaient aller. C'est ça qui est de remarquable chez les ours des cavernes, c'est que quand ils hivernent dans une grotte et qu'ils y retournent année après année, etc., j'ai l'impression que les premières fois, ils ne vont pas trop loin. Mais s'ils y retournent un an ou deux ans après, d'abord ils sentent qu'ils y ont passé, hein, ou que d'autres ont passé, ils ont un flair extraordinaire. Hein. L'ours brun actuellement, enfin les ours qui vivent actuellement, sont capables de sentir une femelle à chaleur à 3 km. Les chiens, c'est rien du tout à côté. Non, c'est vrai. Bon, mais ils allaient partout où ils pouvaient aller, jusqu'au bout. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. À l'FPO, des fois, on trouve que c'est dur, mais alors eux, ils y allaient quand même. Voilà. Bien sûr, on ne peut pas s'éterniser parce que sinon. Mais quand même, on a déjà un peu répondu à certaines questions, je pense, mais finalement, quand ça s'est passé, tout ça, et quelle source? Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit à propos de la Malmacolon, notamment, mais en gros, l'eau des cavernes a vécu de 120 000 ans à 15 000 à peu près. Hein. C'était donc globalement la période glaciaire, la dernière période glaciaire. Donc, avec. Il ne faut pas croire pour autant que la France était recouverte par un iceberg. Non. Non. Il y avait quand même des endroits où il y avait de la végétation, il y avait des endroits où les ours pouvaient aller, il y avait déjà les grottes qui étaient ouvertes et ils pouvaient aller hiverner dedans, etc. Mais c'était quand même une période très très froide. Voilà. Alors, quels ours? Ben, quand on regarde cet ours, ce crâne-là, dans la salle du crâne, oui, on l'appelle la salle du crâne, parce que c'est là où il y a un crâne qui est posé sur le bloc, là, vous savez, enfin, vous avez tous vu. Mais dans cette crâne, dans cette salle, pardon, il y a 53 crânes. Il n'y a pas que celui qui est sur le bloc. Voilà, et vous voyez que. Voilà le museau, les narines, et voilà, vous voyez comme le front est bombé. Et la crête sagittale est importante. Voilà. Donc ça, c'est déjà un critère qui permet de reconnaître si c'est un ours des cavernes ou un autre ours, notamment l'ours brun. Je pense que ça peut être utile après pour les illustrations, les représentations des ours que vous fera Michel. Mais dans la même salle, il y a un autre crâne, là, vous voyez derrière le crâne, l'arc antigomatique. Bon, malheureusement, c'est un peu abîmé dessus, mais voilà les narines et le museau. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus atténué. Hein. Il n'y a pas, ce front très bombé. Bon, comme on n'a pas le droit de toucher les ossements, que les regarder, les photographier éventuellement, les mesurer sans les bouger, si on peut, parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer hors des passerelles. C'est frustrant, mais c'est comme ça. On pense que c'est un ours brun. Bien sûr, si on pouvait le relever et voir si effectivement il a les alvéoles des premières et des troisièmes prémolaires, là, il n'y aurait pas de problème, ce serait de l'ours brun. Mais on pense que c'est de l'ours brun. Comme quoi, même en Ardèche aussi, il y a eu en même temps ours des cavernes et ours brun. Il n'y a pas que dans le quartier. Voilà, justement. Voilà un ours des cavernes avec la canine, il manque les ailes fusibles, ici aussi, d'ailleurs j'ai vu sur le crâne. Voilà la P4, quatrième prémolaire et les deux molaires pour le crâne. Hein. Les mandibules, il y a une molaire de plus, mais vous voyez qu'il n'y a pas les traces, il n'y a pas les alvéoles des premières et troisièmes prémolaires. Alors que chez l'ours brun, il y a les mêmes dents, mais il y a aussi la troisième prémolaire et en général une première prémolaire. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui permet. Quand on a cette possibilité d'avoir des crânes à peu près complets avec la nature, de reconnaître de façon formelle si c'est un ours brun ou un ours des cavernes. Parce que si déjà ce soir vous partez en disant « Mince, moi je croyais que l'ours brun, c'était les descendants de l'ours des cavernes, puisqu'ils vivent encore maintenant », ben non, ils ont vécu en même temps pendant tout le Pléistocène. Ça c'est très important à mon avis. Si je vous fais passer rien que ce message de ce soir, j'aurais pas perdu mon temps. Et oui, effectivement, chez les ours, il y a à peu près 35 millions d'années, au Miocène, il y a des carnivores qu'on appelle les céphalogalées, qui quand même déjà montrent des morphologies un peu caractéristiques des ours. Mais ce ne sont pas des ours pour autant. Hein. Et puis après, on a quand même là, dans le genre Ursabus, il y a à peu près 16 millions d'années, toujours dans le Miocène, donc, on a ce genre Ursabus, on a très peu de vestiges malheureusement, mais au Musée de Lyon, on a la chance d'avoir une très très belle série qui vient du département de l'Aisne. Et là, déjà, on peut dire, c'est un ursidé. Il a les caractéristiques d'un ursidé, d'après le nombre de dents, d'après la morphologie des dents, même s'il est de beaucoup plus petite taille, il est de la taille d'un chien, voilà. Mais quand même, c'est déjà un ursidé. Et après, alors bien sûr, des fois, il y a des manques. Hein. Et puis après, on a un groupe d'ours arvernensis et russinensis qui sont de relativement petite taille, mais qui ont encore toute la chaîne dentaire complète. Ils n'ont pas que les premières prémolaires et les troisièmes. Ils ont aussi la deuxième. Voilà. Et qui sont de petite taille, mais qui sont directement dérivés de l'ursus etruscus. Ursavus. Et puis après, on a l'ours étrusque. Au tout début du quaternaire, au passage Villafranchienne, au passage tertiaire, quaternaire, là où commence déjà à apparaître le genre humain, en tout cas en Afrique, mais même chez nous, en Europe, il y a certainement déjà des hominidés qui remontent à ces périodes-là. Et cet ours étrusque a encore toute sa dentition complète avec prémolaire 1, 2, 3, 4, etc. Et on a déjà de l'ours arctos, de l'ours brun, celui qui vit encore maintenant, il a un peu évolué forcément, mais c'est la même espèce, et qui est autour de 2 millions, 2 millions 1, 2 millions 2. Donc, non seulement l'ours brun n'est pas le descendant des ours des cavernes, mais même il précède les ours des cavernes. Car cet ours brun, peu de temps après, aux alentours d'un million 7, 1 million 8, il se détache. Il y en a qui restent l'ours arctos, et puis d'autres qui, un autre phylum, comme on dit, qui forment les fameux ours qu'on a vus tout à l'heure, sur l'ursus deningeri, et puis l'ursus speleus deningeroides, et enfin l'ursus speleus. Voilà sous une autre forme, et avec les hommes de la préhistoire, là, les néandertaliens, Homo sapiens, le début de l'agriculture. Voilà, on a donc deux espèces d'ours en Europe occidentale, l'ours du Tibet, l'ours brun, qui continue à, aujourd'hui encore à être vivant. Et par contre, on a l'ours des cavernes, l'ursus speleus, qui lui s'éteint. Alors là, je crois qu'on avait marqué autour de combien de... Non, je n'arrive pas à dire.
Moins 10 000.
Moins 10 000. En réalité, c'est plutôt moins 14 000, moins 15 000. Voilà. Mais c'est quand même... Et qui c'était? On ne sait pas trop pourquoi. Bon, ben, peut-être, de toute façon, en paléontologie, en histoire naturelle, en général, une espèce, qu'elle soit animale ou végétale, un jour, elle voit le jour, un peu comme nous, hein. Il y a un enfant qui naît, il grandit, puis il devient adulte. Il a des enfants, ou il n'en a pas. S'il a des enfants, ben, ça continue, hein. S'il n'a pas d'enfants... Et de toute façon, après, il vieillit, il ne se reproduit plus, et il finit par s'éteindre. À l'échelle de la paléontologie, c'est un peu le même processus, sauf que ce processus, il dure sur 2 millions, 3 millions d'années, à peu près. Voilà. C'est quelque chose qui me semble intéressant aussi à signaler. Alors voilà, au point de vue de sa répartition géographique, c'est un animal qui est strictement d'Europe occidentale, pas dans les parties trop au nord de l'Europe et pas dans les parties sud à partir de cet endroit-là en Espagne, un peu en Italie. Donc c'est strictement européen. Ah, il y en a qui ont l'air de se dire, mais c'est comme ça. Voilà, alors, puisqu'on est un peu à raconter des histoires, enfin je suis peut-être un peu trop bavard, excusez-moi, quand même, puisqu'il y a beaucoup de spéléos, quand vous allez trouver des ors dans des grottes, c'est pas forcément non plus de l'ours des cavernes, il n'y a pas que de l'ours des cavernes. Mais bon, là, il se trouve que c'est toujours à Chauvet. Vous voyez, ces alignements d'ossements et tout. Il y en a sur 50 mètres de longueur, comme ça, 15 mètres de large. Rien que là, dans ce qu'on appelle la rivière d'os, on a dénombré plus de 2000 ossements qui ont été déterminés à la jumelle parfois, puisqu'on n'a pas le droit d'y aller. Vous voyez, c'est de l'argile. Donc on n'y va pas. Et on voit ça en éclairant, en lumière rasante et avec des jumelles. Pour dire, ben oui, ça fait un numérus. Et c'est un droit, pas un gauche. On essaye. Voilà, donc il y a beaucoup d'ours essentiellement, mais vous voyez que toujours à cette grotte Chauvet, il y a par exemple ce crâne, qui est un carnivore aussi, mais c'est un crâne de debout. Et il est vraiment loin dans la grotte. Je veux dire, c'est pas un animal qui a été entraîné par une autre bestiole pour venir le manger à l'abri. C'est certainement un animal qui est venu dans la grotte. Et d'ailleurs, on trouve des empreintes de canidés, de loups, de puants, c'est difficile à dire, et on est en train de travailler là-dessus. On va sans doute faire une publication dans l'année qui vient sur ça. Mais il y a aussi du bouquetin. Regardez ce crâne de bouquetin. toujours à la grotte Chauvet. Et on voit bien qu'il n'est pas dit d'aujourd'hui, puisqu'il est cimenté dans la calcite. Alors vous allez dire, quand même, une coutelle, elle est comme ça dans une grotte. Oh. Mais nous aussi, ça nous a surpris. Ça nous a surpris, et en réalité, je ne sais pas si vous voyez, mais là, là et là, il y a une empreinte de Bouquetin. Et c'est profond dans la grotte, et jusque dans la sacristie, qui est la partie la plus profonde de la grotte où on va maintenant, parce qu'il faut désobstruer pour aller plus loin, ça continue. Mais on n'a pas le droit de faire de la désobstruction, puisqu'on n'a pas le droit de toucher au bas. Voilà. Eh bien, il y a des Bouquetins qui sont allés jusqu'au fond de la grotte Chauvet. Ben, c'est quand même... Voilà. Alors, dans le même secteur que la grotte Chauvet, c'est pareil, là, on est en train de faire une petite fouille. Et puis, vous voyez qu'il y a des tas d'ossements, dont celui-ci, là, qui a l'air d'être une mandibule. Et voilà ce que ça donne une fois bien nettoyé. C'est une mandibule tienne des cavernes, absolument complète, intacte, magnifique, qui est datée autour de 35 000 ans. Et les hyènes aussi, il y en a à la grotte aux ours à Souillac, mais elles vont aussi assez profondément dans les grottes. Et l'intérêt de ces bestioles-là, c'est qu'elles y vont, non pas pour hiberner, encore qu'il y a déjà des paléontologues qui commencent à dire que peut-être elles hibernaient un peu, ou en tout cas elles se servaient de tanières pour élever les enfants et tout, même loin de la lumière du jour. Mais très souvent, on trouve des coprolites, c'est-à-dire les crottes fossiles, effectivement, de ces bestioles-là. Ce qui permet... C'est intéressant, mais ce n'est pas de l'ours des cavernes, mais quand même, ça peut être intéressant, parce que ça permet, par l'ADN, de savoir ce qu'ils ont mangé, deux jours avant, hein, le temps de faire la digestion. Et on sait que ces bestioles-là, dans la grotte où j'ai fouillé, ben, ils ont mangé de l'auroch, ils ont mangé de la marmotte, enfin, on a comme ça un certain nombre. Et en plus, on retrouve aussi les pollens des plantes de leur époque. Donc, vous voyez, ça fait quand même des choses qui peuvent être intéressantes pour compléter les informations. Alors, s'ils venaient dans les grottes, comme je vous l'ai dit, mais essentiellement pour se nourrir et non pas pour hiberner, eh bien, on trouve dans ces grottes à hyènes des cavernes beaucoup d'ossements qui sont cachés comme ça, vous voyez, des cassures nettes, des diaphyses complètes. Et ça, c'est la caractéristique des os croqués par les hyènes. Contrairement à l'ours des cavernes qu'on a vu à la Palmacolo, où, vous voyez, c'est mâchonné, où il y a des enfoncements. Mais ce n'est pas du tout le même type d'indice de prédation. Alors, il se trouve que dans cette grotte, là, près de Ballon, on a fait une publication il y a un an et demi, c'est très intéressant parce qu'il y a les deux. Il y a et de l'ours et de l'hyène, et on est arrivé justement à bien définir ce qui était des morsures faites par les hyènes et ce qui était fait par les ours des cavernes. Voilà. Alors, quels sont les principaux indices? Bien sûr, ça va un peu se répéter avec ce que j'ai dit, mais en même temps, ça... Des fois, il faut redire les choses deux ou trois fois pour que ça vienne. Hein. Voilà, il y a essentiellement les os. Hein. Quand on trouve des os d'ours, on se dit, ben oui, ils sont venus là, quoi. Hein. Des fois, ils ont été piégés, mais la plupart du temps, ils sont allés pour hiberner. Voilà, ou comme ici. Mais regardez cet os, c'est un numérus. Vous voyez, il n'y a pas d'échelle, malheureusement. Enfin, il fait en gros 25 cm de longueur. Et juste à côté, regardez cet os. Il a la même forme. Hein. Vous voulez qu'on revienne? Voilà. Il s'agit de deux humérus. Ça, c'est un humérus adulte. Et ça, qui fait 2,5 cm, c'est un humérus de tout jeune ourson à la naissance ou dans les semaines qui ont suivi la naissance. Alors, s'il y a des os d'adultes, s'il y a des os de tout juvénile, enfin de... Ben c'est que c'est vraiment, c'est quand même un signe d'hibernation. Ils sont allés là-bas pour faire les petits, quoi. Et c'est vrai qu'on sait très bien que les ours actuels, notamment l'ours brun, les femelles font leurs petits au début de l'hibernation. Voilà. Donc, tout ça, petit à petit, ça apporte des informations qui permettent de mieux connaître, de mieux comprendre cette bestiole. Voilà. Et s'ils sont allés dans les grottes pour hiberner ou autre, c'est normal que de temps en temps, on trouve des empreintes. Bon, celle-ci, elle est calcitée, elle n'a pas été faite hier. Bon, ça fait un pied, ce n'est pas une main, parce que j'ai vu que tous les autres, c'était des mains. Puisque vous voyez qu'il y a le talon, et la voûte plantaire, et puis les 5 doigts qui ont marqué. Il n'y a pas d'échelle là non plus, parce qu'on ne peut pas s'approcher, parce que si on casse de la calcite, et bon, si on fait ça une fois, on est exclu de l'équipe et on ne retourne plus à Chauvet. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a des endroits où c'est pas une empreinte, c'est, on voit très bien qu'il y a des animaux qui ont marché et on arrive à avoir des pistes, là ce ne sont plus des empreintes, des pistes sur 20, 30, 40 mètres à perte de vue dans la salle des Bosges qui est immense. C'est extraordinaire. Voilà, mais vous voyez, c'est l'humérus, là. C'est... Mais si on regarde bien, il semblait qu'il y ait des empreintes, là, non ? Hein, oui. Alors, un relevé a été fait dans les premières années de fouille. Voilà le fameux humérus. Et voilà toutes les empreintes qui ont été observées à la jumelle et tout, positionnées, ce qui permet de voir dans quel sens ils allaient, si c'était des adultes, si c'était des juvéniles. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres sites actuellement connus en France et même en Europe qui présentent autant d'intérêt ichnologique, car l'étude des empreintes comme ça, des traces, etc., ça s'appelle l'ichnologie, c'est une science à part. Vous allez me dire, mais pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah si, voilà, je parlais des empreintes, hein, mais voyez là, vous voyez là, vous voyez là, ce sont des ours qui ne s'étaient même pas nettoyés des pattes et qui se sont appuyés contre la paroi rocheuse, malheureusement à l'endroit où il y avait des dessins pris. Mais enfin, voilà, ça fait partie donc de l'ichnologie. Mais c'est vrai que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut voir des choses comme ça et qu'on peut interpréter des choses comme ça. Sans compter que là aussi, bien sûr, j'ai pas de photos précises, mais on a des boulettes d'argile, et qui sont des boulettes d'argile qui ont été faites certainement par les ours quand ils avaient les poils avec de l'argile et qui s'est broué comme font les chiens quand ils sortent du bain et qui avaient envoyé des boulettes d'argile. Ça s'est passé il y a à peu près 35 à 40 000 ans. Voilà. Bien sûr, des Bosges aussi, ça n'y a pas de problème, on en a vu à Souillac. Tout ça, là, elles sont maintenant cimentées par de la calcite, mais on voit très bien que là, à perte de vue, c'est, toutes ces dépressions, ce sont des Bosges. Non, certaines sont forcément anciennes, puisque regardez, sur le bord des Bosges, il y a des concrétions qui ont poussé et même qui se sont nettement bien développées. Alors, si j'ai mis cette photo, c'est parce que, je ne sais pas si vous voyez au-dessus, mais quand il se levait de sa Bosge, eh bien, là aussi, il frottait la paroi, puisque c'est à peu près 50 cm de hauteur. Voilà, et donc, il y a aussi les polis. Alors, c'est vrai que ça fait un peu répétition avec tout ce qui a été dit, mais de notre côté, ça permet peut-être... Voilà, vous voyez qu'il y a des très beaux polis. Regardez ça. Ouais. Bon, ça fait partie des indices laissés par les ours, effectivement. Alors, bien sûr, c'est l'histoire de polis. Lorsque les ours longent, vous voyez ici, à partir de ce niveau-là, toute la partie inférieure de la paroi, elle a été pas vraiment polie, mais quand même un peu usée. C'est quand même dommage, parce que il y avait des gravures faites au doigt, et que le bas de ces gravures a été endommagé par un sacré bête. Et à d'autres endroits, bon, c'est pas poli non plus, mais par contre, c'est pareil, c'est à 80 cm. Vous voyez là ces plaques colorées, alors qu'au-dessus c'est clair, au-dessous aussi. Ben, c'est les ours qui, là, n'ont pas poli à cet endroit-là, mais quand ils devaient passer à cet endroit et se frotter contre le mur, ils avaient encore de l'argile collée sur. Et ils ont laissé petit à petit l'argile sur la paroi. Voilà, donc c'est du poli, mais c'est un poli un peu particulier. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut arriver à trouver des tas de nuances. Alors bien sûr, il y a les griffards, pour ça, vous en avez vu des tas. Et c'est ceux qui se voient finalement à peu près le mieux. Bien sûr, lorsque c'est dans l'argile, c'est très profond, parce que c'était quand même des animaux qui pesaient entre 400 et 600 kilos, hein, il ne faut pas croire, hein, debout sur leur patte arrière, quand ils dressaient les mains, c'est ce qu'on appelle les mains, les membres antérieurs, et bien ils arrivaient à peu près à atteindre 3 mètres de hauteur. Ah oui, plus gros que les. Pratiquement de la taille des plus gros grizzlies, enfin des Kodiaks. Voilà, encore dans l'argile, là. Et on voit très bien que c'est vieux, puisque l'argile, elle est patinée, elle est recouverte par de la matière organique. Alors, si j'ai mis cette photo, c'est parce que. Là, au moins, on peut dire que c'est de l'ours. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 5 ans. Et les ours en 7 ans. Parce qu'il y a des tas d'autres carnivores ou autres qui, des fois, griffent un peu. Bon, d'abord, à la hauteur, c'est à plus de 2,50 m de haut, déjà. Mais en plus, il y a vraiment les 5 doigts de la main qui ont... Et on se rend compte qu'effectivement, les griffes, elles ne sont pas toutes à la même hauteur. On voit la forme de la patte. J'ai mis cette photo à cause de ça. Voilà, seulement, on peut quand même dire aussi quelques mots sur les hommes et les ours, parce que toujours à cette voie de Chauvet, bon, bien sûr, il y a ce fameux crâne là, qui a été posé sur ce bloc qui était naturel, qui était fondé de la voûte. Mais vous voyez, 4 autres crânes, là, au sol et tout. Et du coup, quand ça a été découvert, ça, assez rapidement, dans les journaux, Peter, ça y est, on a reparlé du culte de l'ours. Voilà, tout à fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de culte de l'ours, mais il faudrait définir ce qu'est un culte. L'ours, on commence à connaître. Hein. Mais à partir de quand, on peut dire que c'est un culte. Moi, lorsque j'étais gamin, ma première vidéo que j'ai faite, j'avais à peu près 14 ans, j'étais avec mes deux frères, plus jeunes que moi. On a passé un endroit un peu étroit, puis il y avait un crâne, putain. À l'époque, on était gamin, on a cru que c'était un crâne de dinosaure. C'était un crâne de blaireau, on l'a sorti après. Mais la première réaction qu'on a eue, c'est de le mettre sur le côté, pour ne pas le piétiner. Ce n'était pas le culte du blaireau. Hein. Voilà. Voilà, du coup, ça a remémoré un peu cette histoire où les Néandertaliens en particulier vouaient un culte en gardant les squelettes d'ours et notamment les crânes et puis en les mettant après dans des coffres en pierre, etc. Ben ça, c'est tiré de Rigourdou, ça, hein, tout près de Lascaux, sur la commune, sur la même commune de Montignac. Voilà. Alors, puisqu'on est encore. Ah oui, les hommes. Eh bien oui, vous voyez que dans la même grotte, il y a quand même des hommes qui sont venus. Parce que nous, on regarde que les... On regarde les os, on regarde les... Mais il y a aussi des peintures, hein. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Eh bien, vous voyez que là aussi, tout le bas de la peinture est complètement usé par le frottement des os. Voilà. Mais, quand même, je pense que globalement, l'homme préhistorique de l'époque Chauvet, c'est-à-dire l'homo sapiens, connaissait la nature bien mieux que globalement nous la connaissons. Et il devait quand même considérer que, sans être un culte, mais que l'ours était quand même un animal important, très puissant déjà, hein, difficile à attaquer, et qui était très défiant, difficile à voir déjà. Et puis il valait mieux attendre qu'il soit sorti de la grotte avant d'y rentrer. Hein. Voilà. Donc certainement qu'il y a quand même eu un comportement des humains vis-à-vis de l'ours qui est un peu particulier, sans parler pour autant de culte, comme on pourrait le faire. Mais là aussi, c'est, paraît-il, c'est un ours hein, qui a été dessiné, là. Mais vous voyez que c'est mélangé à tout un tas de griffades et la zone usée par le frottement des ours. Donc là aussi, vous voyez qu'il y a alternance homme-ours, etc. Et c'est ça qui est intéressant d'étudier, et notamment, là, cette fois, avec des pariétalistes, c'est-à-dire avec des spécialistes qui étudient les relevés de la grotte Chauvet, mais Michel va vous en parler tout à l'heure, très bientôt d'ailleurs, parce que j'ai bientôt fini. Mais vous voyez ce fameux truc d'ours, les traits ont été faits à la main, hein, au doigt, puisque c'est une paroi qui est recouverte d'une argile relativement molle, sur 2 cm d'épaisseur à peu près, et bien sûr, on n'a pas le droit de toucher la paroi, hein, puisqu'on n'a pas le droit de toucher les os. Mais on devine très bien que c'était très facile de dessiner. Mais vous voyez qu'il y a des traces très... Et si on regarde de près, eh bien on se rend compte que ce trait-là, il a été fait après les griffades. Hein, ça recouvre. Voilà. Donc c'est quand même des choses qui permettent aussi de faire une chronologie relative. Alors c'est pareil si on regarde le panneau des lions, dont on parlait cet après-midi là, à notre réunion, ben voilà, ça c'est un mâle, il n'y a pas de problème, hein. Ben, vous voyez qu'il n'a pas de crinière. Alors, c'est une parenthèse, c'est pas de l'eau des cavernes. Mais voilà, les lions des cavernes, mâles, n'avaient pas de crinière. On le sait maintenant, mais il n'y a pas tellement longtemps qu'on le sait. Alors si on le regarde de plus près, ben, c'est pareil sur le museau, là, vous voyez, mais il y a des tas de griffades. Mais ce trait-là, il recouvre les griffades. On est bien d'accord? Donc il y a eu des ours qui sont venus avant que cette peinture soit faite. Mais sur cette même peinture, si on regarde plus loin au niveau du dos, eh bien on se rend compte que les griffures, les griffades, sont plus récentes. Ce qui prouve bien qu'il y avait déjà des ours qui venaient hiverner dans la grotte avant que les hommes y a, du moins pour peindre et dessiner, peut-être qu'ils y étaient allés pour autant, et, mais qu'il y a aussi des autres qui sont retournés après, bien longtemps après. Ce qui est d'ailleurs prouvé par les datations qui ont été faites sur les ossements. Hein. Voilà, ben encore une autre. Ah, ben oui, ben ça, c'est un plan passant à Michel, à l'autre Michel, que j'ai mis cette photo. Parce que ben, c'est un cheval qui est pareil, au même endroit, qui est fait avec au doigt. Mais vous voyez qu'il y a là, ça, ce sont des griffades d'ours, hein. Ça aussi, là. Celle-là, d'ailleurs, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a les griffes elles-mêmes qui ont marqué. Et entre, il y a le gras du doigt qui a marqué. J'en connais pas d'autres. C'est la seule que je connaisse qui est pas comme ça. Voilà, mais si on regarde de près, mince 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, ça a été fait par l'homme préhistorique. Donc, on peut se demander si ce panneau-là n'a pas été fait et avec, après, une représentation de l'animal mythique de la préhistoire, l'ours des cavernes. Peut-être pour faire voir qu'après tout, la grotte, elle n'était pas qu'aux ours, elle était aussi aux humains. Enfin, ça, je ne sais pas, ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit, malheureusement. Voilà. Je crois que j'ai été assez bavard. Voilà, c'est pour ça que, à mon avis, après avoir longtemps traqué le monde des cavernes, je vous l'ai dit, plus d'un demi-siècle quand même, hein, ben, je crois vraiment pouvoir affirmer que, d'une part, le monde des cavernes est le premier grand explorateur des grottes. Quand il était dans la grotte jusqu'au plus fort et tout, mais que c'est aussi un animal mythique de la préhistoire. Et ils vous disent merci.